Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Nous approchons de la fin de l'année, et du commencement d'une nouvelle année. Pourquoi ne pas la voir comme une grande page blanche à remplir par les écritures humaines de nos vies, qui se nourrissent des écritures bibliques au fil des jours ? Ce passage à l'an nouveau est un temps d'interrogation sur l'avenir, et de formulation de vœux, dans l'espérance que nos vies soient heureuses et belles. Au risque de surprendre nos auditeurs, nous allons aujourd'hui accompagner nos vœux de la relecture d'un passage du livre de l'Apocalypse, de Jean. Il est vrai que dans le langage courant, le mot Apocalypse est souvent synonyme de catastrophe et de terreur, particulièrement dans notre époque troublée. Mais dans la Bible, ce mot grec désigne une révélation, le dévoilement d'une réalité cachée, engageant l'avenir. Nous proposons donc de relire des extraits des chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse dans la Bible de Jérusalem. J'eus ensuite une vision. Voici un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards vêtus de blanc. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants. Le premier vivant est comme un lion. Le deuxième vivant est comme un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Il ne cesse de répéter jour et nuit « Saint, 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 Seigneur, Dieu maître de tout, il était, il est et il vient. Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers, par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, proclamant à pleine voix, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. » Alors je vis, debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils chantaient un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé, et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres, régnant sur la terre. Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » L'Apocalypse de Saint Jean n'est pas un texte facile à lire et à décrypter. Paul Claudel, qui l'a beaucoup étudié, estimait ce livre comme le plus obscur et le plus difficile de la Bible. Père Alain, pourriez-vous quand même nous situer son origine et nous donner quelques clés de lecture générales pour l'aborder ?
Oui, ce que nous venons d'entendre, la partie que vous avez choisie, laisse entendre effectivement que ce n'est pas un livre facile à interpréter. Je voudrais juste ouvrir avec deux citations qui peuvent nous éclairer, peut-être nous aider, peut-être aussi nous encourager dans un temps plus lointain où nous pourrions reprendre de manière plus calme et plus paisible ce livre dans sa généralité, parce que je crois qu'il est très riche. Ces deux citations, je vous les donne. C'était d'abord au début du XXe siècle, donc c'est vieux, un évêque avait dit ceci. En réponse à la question « Quelle est la forme du livre de l'Apocalypse selon vous ?», un lecteur intelligent et pieux doit répondre « C'est le chaos ». Manière de dire, c'est pas facile. Et puis, une autre réflexion, qui était celle d'un père jésuite, qui s'appelle Père Mola, qui a écrit de beaux commentaires sur le livre, dit « L'Apocalypse est vraiment une œuvre gigantesque. Pour un exégète qui doit la commenter, c'est l'effroi dont il faut parler devant une œuvre aussi géniale. » Alors, c'est vrai que l'Apocalypse, j'ai eu l'occasion de la commenter quand j'enseignais, aux séminaristes, je crois que c'est une pièce unique dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être pour la situer, ça peut nous aider à comprendre, comment se fait-il qu'elle ait abouti dans ce livre qu'est le Nouveau Testament, dans l'ensemble des livres ? Elle a porté tellement de lectures impossibles, et encore aujourd'hui, j'ai vécu en Israël longuement, ce livre fascine parce que beaucoup supputent sur les dates en disant ça va, la fin du monde va arriver. Enfin, c'est un livre difficile. Et donc, je me dis, oui, comment est-il arrivé dans la Bible ? Alors, je dirais d'une manière très simple, je fais un petit raccourci historique parce que ça nous aidera à comprendre. Vous savez sans doute, Pierre-Yves, vous le savez, que au moment où le temps de Jésus s'est approché, c'est-à-dire aux alentours des années 150 avant Jésus-Christ, il y a eu une grande crise en Israël et la parole prophétique a disparu. Et au moment où la parole prophétique s'en va, c'est le grand silence, et le ciel se ferme, c'est une image qu'on trouve, le ciel se ferme, vont naître alors des auteurs nouveaux qu'on appelle justement les auteurs apocalypticiens, l'apocalyptique. Et parmi ces auteurs, il y en a un que nous connaissons bien et qui a aussi inspiré sans doute notre livre de l'Apocalypse, c'est le livre de Daniel. Daniel qui nous ouvre des chemins intéressants et qui est très important pour comprendre Jésus, puisque Jésus va s'appeler Fils de l'homme. Et d'où vient ce titre du livre de Daniel ? Donc, le livre de l'Apocalypse, il est compliqué. Il peut donner naissance à beaucoup de malentendus et il l'a fait. Mais il reste qu'il est important. Nous allons peut-être, par le petit commentaire que nous en ferons aujourd'hui, pouvoir le faire toucher du doigt à nos auditeurs.
Alors, revenons effectivement au texte, donc ces chapitres 4 et 5. Comment les situez-vous dans le plan d'ensemble du livre ? Quelle est un petit peu leur articulation, leur plan interne, etc. ?
Alors, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut se rappeler peut-être des choses un peu simples. Il y a d'abord trois chapitres. Les trois premiers chapitres, ce sont les chapitres qui évoquent les sept lettres aux églises. Le chiffre 7 est un chiffre magique dans l'Apocalypse. Il apparaît, mais je ne sais plus, je crois que c'est une trentaine de fois. 7 est un chiffre qui est repris. Il y a les 7 églises qui sont présentées. Il y a les 7 plaies qui sont présentées aussi. Enfin, ce thème du 7 est important. Et une fois que ces 7 églises sont présentées, commence véritablement alors, ce qui touche à l'Apocalypse, c'est-à-dire ce que nous avons choisi à commenter. C'est là que commence véritablement le récit, dans les chapitres 4 et les chapitres 5.
Alors, il semble que ce texte se prête bien à une lecture narrative au fil du texte, si vous en êtes d'accord. Donc, nous allons peut-être le suivre un petit peu au fil de l'eau, on pourrait dire. Alors, dès le début, c'était très énigmatique. Le narrateur, qui parle à la première personne du singulier, évoque sa vision d'un trône dressé dans le ciel sur lequel siège quelqu'un. Alors moi, j'ai deux questions qui me viennent. Qui est ce narrateur ? Est-ce Jean lui-même ? Et deuxième question, peut-on déjà identifier ce mystérieux quelqu'un ou faut-il attendre la suite du récit pour le savoir ?
Bon, je crois qu'on peut l'identifier. Ça nous, peut-être ça nous pose une question qui est classique, hein, que je pense que tous les auditeurs ont pu rencontrer. C'est pas facile de traduire les textes d'une autre langue. Ici, nous avons un texte en grec. Et le texte grec a une rigueur qui n'est pas toujours transférable dans une autre langue. Là, vous avez souligné le problème « quelqu'un assis ». Dans le texte grec, il y a un participe, simplement, qui dit « katémenos », ça veut dire « quelqu'un qui est assis ». C'est ça la phrase. Alors, comme la traduction a voulu garder quelque chose du sens, il y a quelqu'un qui est assis, « katémenos ». Et cette expression reviendra plusieurs fois. Un assis, si on pouvait dire ça, mais en français, ça ne se dit pas. Quelqu'un qui est assis. Et ce quelqu'un, c'est évidemment le Seigneur Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui, dans un moment, va se situer, je dirais, dans une étape très statique. Vous avez remarqué que ce chapitre que vous avez lu, c'est un chapitre où il ne se passe rien. Tous les verbes sont en imparfait, pratiquement. C'est-à-dire, on est en train de préparer quelque chose, mais rien ne se passe. On est en attente d'un événement. Et on pourrait, sans vouloir s'y attarder, avec des par exemple, vous avez remarqué, il y a des choses mystérieuses. On parle des 24 vieillards. Mmh. On s'est beaucoup posé de questions. Souvent, on a plus des interrogations que des réponses. On sait qu'il y avait dans le monde juif 24 ordres sacerdotaux. Donc, est-ce que c'est une reproduction de... C'est très juif, ce livre est très juif. Peut-être, c'est possible, mais... On a beaucoup de questions et peut-être qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ces petites questions et plutôt nous porter vers le sens. Je vous dis, ce qui est important, c'est que ces stades, il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien, si vous voulez, c'est un peu comme on attend quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va bien sûr jaillir dès le commencement du chapitre 5. Et là, l'histoire commence. Pour le moment, on est dans une perspective, au fond, qui nous décrit la scène au fond, dans le ciel. Hein, c'est le ciel, le Dieu qui est là. Dieu Tout-Puissant, Dieu Seigneur, et on souligne bien la seigneurie de Dieu parce que on veut s'opposer à la seigneurie des empereurs du temps. N'oubliez pas que l'Apocalypse est un livre qui parle des persécutions des empereurs contre les chrétiens. Donc, on veut montrer que notre Dieu, il est puissant, ce Dieu assis, ce Dieu entouré de puissance. Mais il doit se passer quelque chose, et c'est ce qui va arriver avec le chapitre 5 dont vous avez lu quelques extraits.
Bon, on a bien identifié ce quelqu'un. Juste un mot, qui est ce narrateur alors? C'est Jean?
Alors, le narrateur, c'est l'auteur. Hein,
c'est l'auteur.
C'est Jean.
Oui.
Il s'appelle Jean depuis le début. On ne sait pas très bien qui c'est. C'est-à-dire, c'est un nom mystérieux. On sait qu'il a été mis en exil par l'empereur dans une île, mais on ne sait pas bien qui c'est. C'est pas l'évangéliste, c'est pas la même tradition que l'évangéliste. Donc, figure mystérieuse, mais qui s'appelle Jean. C'est le nom qu'il se donne, qui lui est donné.
Alors ensuite, on va rentrer dans quelque chose qui nous est peut-être un petit peu plus familier. L'histoire des quatre vivants. Il y a quatre vivants portant chacun six ailes qui se trouvent au milieu autour du trône. Et le narrateur précise qu'ils ressemblent respectivement à un lion, un jeune taureau, à un homme et à un aigle. Est-ce qu'on ne peut pas y voir les symboles des quatre évangélistes?
Non, je ne pense pas. Peut-être au terme de la lecture, mais là on est dans un éclairage qui doit être puisé dans l'Ancien Testament. Un jour, tout à l'heure je vous faisais partie des commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont commenté ce livre. C'est un livre passionnant, mais difficile. Et on lui demandait un jour à cet auteur... Qu'est-ce qui est difficile dans le livre de l'Apocalypse? Et il répondait, rien n'est difficile dans l'Apocalypse si on connaît bien l'Ancien Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament est plein d'images, de figures, et en particulier, les quatre figures que vous avez évoquées, et qui sont effectivement reprises pour qualifier les évangélistes, mais c'est second, cette dimension. Ça nous vient du chapitre 5 d'Ézéchiel, dans lequel... Je vous cite un petit peu, ça nous donnera une idée. Ça veut dire qu'on dit les visages ressemblaient à un visage d'homme. Tous les quatre avaient à droite une face de lion, à gauche une face de taureau et une face d'aigle. C'est-à-dire, nous avons là les quatre figures qui vont être reprises par les évangélistes. Ce sont des figures un peu mythologiques, c'est-à-dire on est à la limite, si vous voulez, c'est-à-dire c'est du fantastique. On pourrait dire la catégorie de l'Apocalypse, ça relève de ce qu'on appelle le fantasme, fantastique.
Alors, on continue, on arrive au début du chapitre 5. Alors, le narrateur voit un livre roulé, scellé de 7 sceaux, dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Donc, on a compris que c'était le Seigneur, que c'était Dieu. Mais il déplore que nul n'est digne ni capable d'ouvrir ce livre. Quel est ce livre ?
Alors, voilà, on est dans l'intrigue. L'intrigue commence. C'est-à-dire qu'il y a un livre... Mais ce livre est fermé. Il est fermé par 7 sceaux, justement. C'est ça l'intrigue du récit qui va suivre, qui vont sauter les uns après les autres et qui vont déployer ce qu'est le mystère de l'histoire. Ici, ils sont scellés. S'ils sont scellés, ça veut dire que l'histoire est fermée. C'est-à-dire, il faut imaginer derrière les premiers chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés, qui sont... très proches de l'époque de Jésus, et qui ne comprennent pas, alors que le Christ est ressuscité, qu'ils ne comprennent pas qu'ils soient victimes de persécutions et que Dieu ne les protège pas alors que le Christ est mort et ressuscité. Donc c'est ça l'enjeu au départ, si vous voulez, et c'est ça que l'agneau qui était déjà là, mais qui n'était pas nommé, vous avez vu que l'auteur est très habile, hein. Il n'a pas dit qu'il y avait l'agneau, c'est tout à coup il surgit, et vous avez évoqué la phrase qui est extraordinaire, qui est digne d'ouvrir le livre ? C'est-à-dire, le livre est fermé, qu'est-ce que ça veut dire que le livre est fermé ? Ça veut dire que l'histoire est bloquée, que l'histoire n'a pas de sens, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver le sens de l'histoire, le sens de notre histoire, pour les premiers chrétiens. Comment expliquer ce que nous connaissons ? Donc, le livre de l'histoire est fermé, on cherche quelqu'un pour ouvrir le livre. Et la question, bien sûr, vous l'avez vu, ça va faire débloquer le livre. Qui est digne d'ouvrir ? À la fois, qui est capable et qui est digne d'ouvrir ? C'est le mot « digne » qui est intéressant. Qui est digne d'ouvrir ? Et c'est là que l'agneau va paraître avec toute sa force.
Et effectivement, il y a un vieillard qui va dire au narrateur de ne pas pleurer. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a remporté la victoire et il ouvrira donc le livre. Alors, le narrateur voit un agneau comme égorgé qui prend le livre. L'allusion au Christ n'est-elle pas évidente
c'est
à
évident,
ce niveau-là ?
Bien sûr. L'agneau, c'est... S'il fallait chercher dans le livre de l'Apocalypse, quel est le personnage dominateur de l'Apocalypse ? Eh bien, peut-être on risque de vous surprendre... J'imagine que vous avez déjà un peu travaillé l'Apocalypse, donc vous la connaissez un peu, mais si on faisait la liste de tous les titres qui sont donnés à Jésus dans l'Apocalypse, vous en trouvez une trentaine. Alors je ne vais pas vous les énumérer, parce que ça serait trop long, notre temps est un peu court, mais celui qui domine, c'est le titre de l'agneau, une trentaine de fois. Et c'est l'agneau, alors l'agneau, à la fois l'agneau pascal, voici l'agneau de Dieu, dit Jean-Baptiste, quand Jésus arrive... c'est l'agneau de Pâques, l'agneau immolé. Oui, c'est toute cette dimension, cette grande richesse. Et cet agneau, au fond, c'est une figure, bien sûr, c'est une métaphore qui est digne. Et c'est seul l'agneau est digne d'ouvrir. Et c'est là que l'histoire commence.
Et une fois qu'il a pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau en chantant un cantique. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuples et nations. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse. C'est un cantique qui est quasiment théologique.
Oui, vous pourriez dire à la fois théologique et peut-être surtout liturgique. C'est-à-dire, nous sommes ici au cœur même, sans doute, de ce qu'a été la naissance de la liturgie. Ça, c'est une des beautés de ce livre de l'Apocalypse. Il est né dans le cadre liturgique. Et je pense à un auteur, un grand commentateur du livre, qui a dit ceci, je trouve que ça peut nous aider aussi à rentrer nous-mêmes dans le livre. Il dit « On ne peut que saluer avec émotion la trace certaine dans notre texte de ce qui pourrait être la plus ancienne liturgie chrétienne connue. Nous sommes au cœur même de messages liturgiques, c'est-à-dire on nous raconte l'histoire des premiers chrétiens, mais à travers les liturgies qu'ils pratiquaient. Et là, nous avons des morceaux de liturgie, c'est ça qui est magnifique.
C'est formidable de terminer l'émission sur ce que vous venez de dire, puis ça donne envie d'aller plus loin dans cet apocalypse. Et alors, on est au terme de cette dernière émission de l'année. On termine là-dessus.
Je souhaite donc à tous nos auditeurs une très belle année 2019 avec de belles explorations des écritures bibliques, riches en découvertes qui apportent du sens et de l'espérance dans nos vies.
Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir partagé vos connaissances. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, l'année prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.